présent à la présentation de notre conférencier de ce soir, Patrick Brion. Patrick Brion est né en 1941. Il est historien du cinéma, concepteur et animateur du Ciné-Club. Rapidement, quelques mots sur son parcours. En 1966, il est assistant de production de cinéastes de notre temps à l'ORTF et il est responsable du secteur des séries, puis de la sélection des films à l'ORTF. En 1971, il crée et programme le Ciné-Club sur la seconde chaîne. Et depuis 1975, il est responsable de la sélection des films sur France 3. En 1976, il crée et anime le cinéma de minuit et participe à la création et à la programmation de la dernière séance. Patrick Brion est spécialiste de l'histoire du cinéma et notamment de l'histoire du cinéma américain. Il a travaillé sur les grands réalisateurs américains et européens de Griffith à Houston en passant par Alfred Hitchcock. Il a également réalisé plusieurs travaux sur des acteurs et des actrices, Greta Garbo ou Clint Eastwood par exemple. Enfin, une grande partie de ses recherches porte sur les genres cinématographiques, le film noir, la comédie musicale, le cinéma fantastique, le western et sur le dessin animé et notamment Tex Avery. Il est l'auteur de très nombreux articles et de filmographies, notamment dans les Cahiers du cinéma, dans l'Express, dans Télérama. Il était membre du comité de direction des dossiers du cinéma aux côtés de Jean-Louis Bory et Claude-Michel Cluny. Et il est l'auteur de très nombreux ouvrages, je citerai les derniers qui sont parus. Regard sur le cinéma américain 1932-1963, aux éditions de La Martinière en 2001. Albert Lewin, un esthète à Hollywood, bibliothèque du film, Durant éditeur, 2002. John Ford, édition de La Martinière, 2002. Clint Eastwood, édition de La Martinière, 2002. John Huston, biographie, filmographie illustrée, analyse critique, édition de La Martinière, 2003. Une réédition du le film noir, qui est donc réédité aux éditions de La Martinière en 2004. Et le dernier ouvrage est consacré à Martin Scorsese, il s'appelle Martin Scorsese, aux éditions de La Martinière, 2004. Voilà, je vais donc lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec la salle d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous allons donc parler du cinéma hollywoodien. Du cinéma hollywoodien de l'époque de l'âge d'or, c'est-à-dire entre 1912 et 1970. Et je voudrais donc commencer par un petit rappel historique des cinq périodes, en fait, qui marquent l'histoire du cinéma américain. On peut envisager une première période de 1895 à 1912, c'est-à-dire avant que les très grands studios ne se créent, ce qu'on va appeler par la suite les majeures compagnies. Mais ce qui n'empêche pas, et Thomas Innes et D.W. Griffith, d'avoir déjà leur propre studio, notamment Griffith. Ces années de début, donc de 1895 à 1912, ne sont pas du tout, comme on pourrait le croire, une période de bégaiement ou de recherche inutile. C'est le moment où le cinéma en tant qu'art commence déjà à avoir tous ses jalons. Le premier film de Griffith, Adventures of Dolly, qui est de 1906, est déjà un film superbe dans lequel on va trouver tout ce que Griffith pourra apporter par la suite. Donc c'est une période qu'il ne faut en aucun cas, naturellement, mépriser. De 1912 à 1927, c'est-à-dire du début de la création des grands studios jusqu'à la fin du cinéma muet. Les grands studios se créent dans les années 10 et dans les années 20. Le premier grand studio, c'est en 1912 l'Universal, en 1914 la Paramount, en 1923, la Warner, et en 1924, la Metro-Goldwyn-Mayer. L'arrivée du parlant, en 1927, est, comme on le sait, une véritable catastrophe. Parce que le cinéma muet des dernières années était sur un véritable sommet artistique. Quelques titres très rapidement, c'est l'Aurore de Murnau, c'est Le Vent de Victor Sjöström, c'est La Foule de King Vidor, c'est Le Caméraman de Buster Keaton, ce sont les rapaces d'Eric von Stroheim. On voit qu'on est sur un sommet. Et à ce moment-là, d'un coup, l'arrivée du parlant démonétise tout ce cinéma qui était absolument exceptionnel. Les premières années du parlant, on le sait aussi, sont souvent décevantes, puisqu'à ce moment-là, le seul intérêt des grandes compagnies cinématographiques, c'est d'avoir des films où les gens parlent ou chantent. C'est-à-dire, on enregistre n'importe qui à partir du moment où il a joué à Broadway, n'importe quel chanteur, on fait des espèces de comédies musicales qui sont des pot-pourris, on prend n'importe quel texte dramatique, et la seule chose importante, c'est de pouvoir mettre 100% parlant, et si possible, 100% chantant sur l'affiche. Mais le cinéma américain, très rapidement, les grands studios se reprennent. Et donc, nous avons cette troisième période qui va de 1927 à la fin des années 40. 1927, c'est donc le début du cinéma parlant. La fin des années 40, pourquoi ? Parce que c'est le moment où le cinéma hollywoodien est obligé d'affronter deux problèmes. Alors, la catastrophe, ça a été d'affronter ces deux problèmes simultanément. Il les aurait eu consécutivement, ils s'en seraient peut-être sortis simultanément, c'était très grave. L'une des premières choses, c'est la concurrence de la télévision. Arrive à la fin des années 40 le petit écran, c'est-à-dire que les spectateurs américains qui ont acheté une télévision, restent devant systématiquement, vont de moins en moins au cinéma et absorbent n'importe quel produit plutôt de basse catégorie sur le petit écran. Ce sont dans l'ensemble les plus mauvais films qui y sont diffusés, puisque les majeures compagnies qui gardent encore leur stock se gardent bien d'aider la télévision en y laissant diffuser des films importants. Donc ce sont dans l'ensemble des films médiocres, plutôt enfin schématisant, on est toujours obligé de schématiser, plutôt des petits westerns, des films de série C, mais c'est en tout cas une concurrence redoutable pour le cinéma. Au même moment, le gouvernement attaque l'industrie cinématographique en lui appliquant la loi Sherman antitrust. La loi Sherman antitrust a pour principe, elle avait surtout été appliquée avant aux industries comme l'automobile ou autres, c'est-à-dire c'est de casser le vieux trust vertical production, distribution, exploitation. Dans le cas du cinéma, c'est catastrophique parce que ce trust vertical avait un énorme intérêt, pas uniquement économique, mais un intérêt artistique. Quand, par exemple, une firme comme la 20th Century Fox produisait un film, elle était sûre de le distribuer, puisque c'était elle-même qui le distribuait, et le distribuer dans ses propres salles. C'est-à-dire qu'elle pouvait prendre des risques sans être obligée de se dire « Est-ce que je vais trouver un distributeur ? Est-ce que je vais trouver un exploitant, un circuit de salles ?» Il y avait une espèce de lien, disons, presque familial de la production à l'exploitation. L'application de la loi Sherman est donc une véritable catastrophe artistique. Économiquement, elle était peut-être juste, je ne suis pas un économiste, mais sur un plan artistique, en tout cas, elle a été catastrophique. Le cinéma américain était heureusement, le cinéma hollywoodien, était heureusement assez fort pour que ça ne se voit pas tout de suite. C'est-à-dire que pendant, en gros, 10-15 ans, il a fonctionné en roue libre. La force de la machine hollywoodienne était toujours au travail. Donc, on arrête à la fin des années 40 la troisième période et arrive la quatrième période du début des années 50 jusqu'à 1970. La concurrence de la télévision se fait de plus en plus grande. L'application de la loi Sherman augmente, donc les firmes de cinéma sont dans une situation économique qui est très mauvaise et elles commencent à restreindre leur budget. C'est-à-dire, c'est la fin des contrats, les acteurs et les réalisateurs qui étaient souvent sous contrat sont licenciés, enfin plutôt on ne renouvelle pas leur contrat. Le département animation des grandes firmes est supprimé, par exemple c'est ce qui se passe à la Metro-Goldwyn-Mayer où on ferme complètement le département animation, ce qui pousse William Hanna, Joseph Barbera, qui étaient les créateurs de Tom et Jerry, et surtout Tex Avery, vers la télévision, où ils ne retrouveront jamais l'âge d'or qu'ils avaient eu à la Metro-Goldwyn-Mayer. On ferme le corps de ballet, parce que ça coûte trop cher, donc on ne tourne plus de comédie musicale, et on peut penser que la fin de cette période, c'est l'année 70, qui voit la grande vente Weiss. La grande vente Weiss, c'est le moment où Kirk Kerkorian, qui périodiquement achète et revend la Metro-Goldwyn-Mayer, je crois qu'il est d'ailleurs en train d'essayer de la revendre en ce moment à Sony, Kirk Kerkorian décide de faire une grande vente, décide de faire une grande vente où il va brader tous les actifs de la société, c'est-à-dire tous les accessoires, tous les costumes, tout ce qui était vraiment le patrimoine de la Metro Goldwyn Mayer. Alors, il ne s'agit pas uniquement de pleurer sur une vente, mais c'est vraiment le patrimoine cinématographique qui disparaît à ce moment-là. Ce sont les plus beaux costumes, ceux de Greta Garbo, de Catherine Hepburn, de Clark Gable, de Judy Garland, qui partent pour quelques dollars. Ce sont des mobiliers, des meubles exceptionnels, par exemple pour le Marie-Antoinette de Woody Van Dyke, qui avait été tourné avec Tyrone Power et Norma Shearer. La Metro Goldwyn Mayer avait acheté des centaines de meubles en France. Ces meubles sont quasiment bazardés. Donc on peut vraiment considérer que cette vente, en 1970, par-delà le fait qu'elle touche celle qui était encore à ce moment-là l'une des plus importantes des firmes américaines, c'est-à-dire la Metro Goldwyn Mayer, et la fin des grands studios. Donc on peut considérer qu'entre 1912 et 1970, 1912 date de la création du premier studio, l'Universal, 1970 date où on brade tous les actifs de la Metro Goldwyn Mayer au cours de la vente Weiss, l'âge d'or hollywoodien se termine. Depuis 1970, bon, le cinéma américain continue, il se porte bien, en tout cas il se porte très bien économiquement, artistiquement, pour en parler un autre jour. Moi, c'est une période qui m'intéresse beaucoup moins. Alors, on va tout de suite dissiper un malentendu. Ce n'est pas un réflexe d'ancien combattant fatigué qui me ferait dire que le cinéma américain contemporain est moins intéressant que le cinéma américain d'hier. Je vois beaucoup de films contemporains par mon travail. À France 3, je vois beaucoup de films récents, énormément de films récents. Par mon autre travail, quand j'écris des livres, je travaille plutôt sur des films anciens. Donc, je peux comparer quasiment quotidiennement les uns et les autres. La comparaison n'est pas à l'avantage de ce qui se tourne aujourd'hui. Et, petit élément mathématique très facile à comprendre, aujourd'hui, les grands cinéastes d'Hollywood américains, disons, vous les comptez sur les deux doigts, sur les deux mains, si vous êtes très généreux. Vous en trouvez une dizaine. Scorsese, et Clint Eastwood, Woody Allen, encore deux, trois autres. Bon, je ne suis pas sûr qu'on arrive à 10. Sinon, inversement, quand on est dans les années 50, prenons tout simplement, oui, les années 50, vous avez une soixantaine de cinéastes, une soixantaine, hein, qui sont Joseph L. Mankiewicz, Hitchcock, Howard Hawks, Otto Preminger, Elia Kazan, Nicolas Ray, Vincente Minnelli, Raoul Walsh, William Wellman, bon, etc. Il y en a une soixantaine de ce niveau-là. Ils font chacun environ un film par an. Chaque film n'est pas un chef-d'œuvre, naturellement. Mais ils font un film plutôt, en général, un film et demi par an. Donc, mathématiquement, c'est bien évident qu'il n'y a aucune comparaison entre le cinéma américain contemporain et le cinéma américain d'hier. Alors, il faut essayer de comprendre, et c'est pour ça que cette conférence me faisait plaisir et que je suis content de vous en parler, et que je serai encore plus content tout à l'heure quand vous me poserez des questions ou que vous ferez des remarques à ce sujet. Il y a une grande question qu'on peut se poser avec le cinéma américain. Il est complètement différent des autres cinémas, et notamment des cinémas européens et des cinémas italiens ou français que nous connaissons mieux. C'est un cinéma qui est un cinéma pas uniquement de réalisateurs, c'est ça la grande surprise, de producteurs et de scénaristes. Et il y a une alchimie qui est pratiquement incompréhensible. Et plus vous travaillez sur le cinéma américain, plus c'est incompréhensible, quasiment. C'est un cinéma qui, en fait, n'aurait jamais dû être bon, de la manière dont il était produit. La part du producteur est essentielle, est vraiment essentielle. On a l'impression que le réalisateur arrive bien après, et en même temps, il est bien évident que des carrières aussi exceptionnelles que les carrières d'Hitchcock, de John Ford, de John Huston, d'Howard Hawks, qui vous voulez, sont des carrières personnelles, tout aussi personnelles que celles des plus grands cinéastes italiens ou français, bien évident. Donc, ce auquel il faut penser, et c'est très important quand on étudie le cinéma américain, c'est même essentiel, c'est le rôle du producteur. Bon, les producteurs américains, ils ont été, les producteurs du cinéma américain ont été à la base de ce cinéma. Ces gens étaient pour la plupart des immigrés. Ils ont eu comme point commun d'arriver à Ellis Island, côté de la Statue de la Liberté, là où arrivaient les immigrés, et pour beaucoup de s'installer dans l'East Side de New York. Ils appartenaient à des classes peu fortunés. Aucun n'appartenait au monde du cinéma. Aucun, enfin, on était très tôt, il faut dire, on était au début du siècle. Aucun n'appartenait même au monde du théâtre. Aucun n'appartenait au monde de la culture. C'était des gens qui étaient peu cultivés. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Et c'est d'autant plus admirable de voir ce qu'ils ont pu faire pour des gens qui, au départ, n'avaient aucune culture. Ils avaient un autre point commun, ils étaient pour la plupart d'origine juive. Et ils venaient d'Europe. Ils venaient de partout d'Europe. Parce qu'ils avaient fui ou les pogroms de la Russie tsariste, ou la Russie stalinienne, ou d'autres endroits où la plupart du temps, justement, comme ils étaient juifs, ils souffraient de persécutions. On va prendre quelques exemples, on ne va pas les prendre tous les uns par les autres, mais on va prendre quelques exemples parce que c'est à partir d'eux que le cinéma hollywoodien s'est forgé. Prenez par exemple Adolphe Zukor. Adolphe Zukor, il est né en Hongrie, 1973. Il est fourreur. Il n'a rien à voir avec le cinéma. Il commence... Alors, quand ils arrivent aux États-Unis, ça, c'est un autre point commun. Quand ils arrivent aux États-Unis, ils ont envie de gagner de l'argent, c'est évident. C'est le grand rêve américain. Les États-Unis, c'est le pays de la liberté, mais c'est en même temps le pays où on peut faire fortune. Ils s'intéressent plutôt au domaine du théâtre, parce que c'est le premier spectacle. Ils connaissent mal le cinéma. On est au début du siècle. Le cinéma n'est né que depuis 5 ans. Le théâtre est complètement tenu en main par les Américains, et surtout par les Anglais, qui ont les réalisateurs et spécialement les acteurs sous contrat. Donc, le domaine du théâtre leur est interdit. En revanche, il y a ces petites boutiques qui sont dans les Penny Arcade, les Nickelodeon, où on passe des petits bouts de films, soit sur des appareils comme les mutoscopes, soit sur un petit écran où on passe des films de 5 ou 10 minutes. Et finalement, ça ne coûte pas très très cher d'acheter des choses comme ça, d'acheter des petites boutiques et de commencer. Et donc, ils vont investir tous leurs bénéfices qu'ils feront ailleurs dans ces petites boutiques. Zukor, donc, il est fourreur, qui fait la confection, il n'est pas fourreur d'un magasin. Ils fondent avec les bénéfices des Penny Arcade, immédiatement, grande ambition culturelle tout de suite, une société qui s'appelle Famous Players in Famous Place. Immédiatement, ils ont tous une espèce de volonté culturelle. Ça, c'est très frappant, très surprenant en plus. Ils mettent la barre très haut. Ça n'a pas été le cas dans tous les pays. C'est le cas en tout cas aux États-Unis. Donc, Zukor fait ça. Karl Lemmle, la même chose. Il est né à Laufheim, en Allemagne. Il est comptable, il fait garçon de course. Dès qu'il gagne de l'argent, il achète un Nickelodeon. Il fondera l'Universal. Les frères Warner sont aux États-Unis. Ils vont faire la même chose. Harry Cohn, qui fondera la Columbia, est aux États-Unis, mais il est fils d'un tailleur, vendeur de fourrures et arnaqueur au billard. Tout l'argent qu'il gagne en arnaquant les autres au billard va lui permettre de fonder la Columbia. William Fox, il est né en Hongrie. On lui devra notamment l'Aurore, le Morna, pas n'importe quoi. Hein. Il est né en Hongrie, travaille dans la confection 12 heures par jour. Les bénéfices, il va les investir dans le cinéma. Il fondera la Fox. Louis B. Meyer, il est né à Minsk, en Russie. Son père est laboureur. Sa mère, elle vend des poulets de porte en porte. Il n'a aucune culture. Il arrive aux États-Unis, il trafique les métaux. Dès qu'il fonde, avec les bénéfices qu'il fait, il fonde la Meyer Pictures et ensuite la Metro-Goldwyn-Mayer. À ce moment-là, il n'a qu'une envie, il demande quels sont les grands auteurs. On lui dit, etc. Il engage William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, William Saroyan, Aldous Huxley. Il y a pire. Leo Selznick et son fils, David Selznick, sont d'origine russe. Mais alors, l'exemple qui est sans doute le plus fascinant, c'est celui de Samuel Goldwyn. Samuel Goldwyn, il est né à Varsovie. Il est assistant forgeron. Ensuite, il devient gantier. Il arrive aux États-Unis, donc il gagne de l'argent... en bricolant, et immédiatement, il forme sa société, Goldwyn, et il dit tout de suite, grande volonté culturelle, grande ambition, il dit, mes films seront un mélange d'intelligence et de goût. Tous les producteurs ne le disent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais réunir autour de moi une espèce de club, qu'il appelle Eminent Authors, donc célèbres auteurs, il y a Buster Keaton, il y a Gouverneur Morris. Ça lui permet d'avoir autour de lui des gens qui vont lui donner des conseils, des gens avec qui il s'entend bien, dont il pourra adapter les romans, parce qu'il se dit avec intelligence que les romans étant connus, il va adapter des romans déjà connus, donc une partie de la publicité est déjà faite. Parce que ces gens ne sont pas uniquement des humanistes, ils veulent gagner de l'argent. Et il prend comme bras droit, pour lui donner des conseils, Albert Lewin, futur réalisateur du portrait de Dorian Gray, qui est l'un des hommes les plus cultivés qui soit. Alors, Goldwyn, fasciné. On lui dit, il y a quelqu'un de grand talent, c'est Maurice Maeterlinck, l'auteur de L'Oiseau Bleu. Bon, immédiatement, il fait faire un contrat à Maeterlinck, qui lui écrit, comme un gros scénario, l'histoire d'une abeille. Naturellement, c'est intournable. Bon, donc, exit Maeterlinck. On lui dit, il y a quelqu'un qui est pas mal, qui est en Autriche, qui est Sigmund Freud. Il contacte immédiatement Freud pour essayer de lui faire faire un scénario. Bon, ça ne marche pas. Alors, autre chose, on lui dit, il y a Georges Bernard Shaw, qui a beaucoup de talent et surtout beaucoup d'humour. Très bien, dit Goldwyn, on va le faire, qui vienne me voir. Il dit non, Shaw ne veut pas se déranger. Bon, alors, Goldwyn part à Londres, et je crois dîne avec Georges Bernard Shaw au Claridge, pour lui expliquer tout ce qu'il veut faire, et pour l'engager, lui faire faire des scénarios et lui faire un pont d'or. Et le lendemain, il reçoit un carton de Georges Bernard Shaw, qui lui dit « Nous ne pourrons jamais travailler ensemble parce que vous ne vous intéressez qu'à la culture et moi je ne m'intéresse qu'à l'argent. » Si vous voyez, tout ceci, et par-delà les anecdotes qui sont souvent savoureuses, c'est très intéressant parce qu'on voit donc des gens qui ne sont, une fois de plus, et une fois encore, c'est un reproche, qui n'ont pas de culture, qui au contraire vont être, dès le début, passionnés par la culture, qui ont une soif de culture et qui ont une volonté de mettre, comme je disais tout à l'heure, la barre le plus haut possible et de faire des grands films. Alors, bon, le résultat, il n'y aura pas que des chefs-d'œuvre, il ne faut pas non plus exagérer, mais il y aura cette espèce de volonté perfectionniste qui va se manifester pendant toute leur carrière. Et ce qui manque certainement au cinéma contemporain, aux États-Unis en tout cas, ailleurs, certainement aussi, sont des producteurs. Je ne pense pas que les réalisateurs soient plus mauvais qu'avant. Il manque les producteurs et il manque les scénaristes. Alors d'ailleurs, justement, à ce moment-là, ces producteurs engagent les scénaristes. Ils ont une passion pour les scénaristes. Ils sont intéressés par les auteurs. Alors d'une part, on adapte les grands auteurs, la plupart du temps européens, c'est-à-dire c'est Jules Verne, Joseph Conrad, Tolstoï, Dostoïevski, Oscar Wilde, Victor Hugo, Alexandre Dumas, etc. Parce que ça, ce sont des Oscar Wilde un peu moins, mais les autres, ce sont des valeurs sûres, ce sont des gens qu'on connaît. Mais on engage une multitude de scénaristes. Et ce qui est très frappant, c'est quand on prend les documents établis par les grandes firmes cinématographiques, chaque année, ils font des documents ou pour le des espèces d'albums annuels pour les salles de cinéma, les circuits de distribution ou pour leurs actionnaires. On voit les gens qui produisent et on voit les acteurs et on voit deux grandes colonnes, c'est les réalisateurs et les scénaristes. Il y a vraiment une volonté de chercher les scénaristes exactement comme une volonté de chercher des réalisateurs sur le même plan. Et ça, c'est très important parce qu'on partira d'un principe, c'est qu'on ne fait pas un bon film sans avoir un bon scénario. Alors, le cinéma américain va bénéficier, malheureusement, enfin, heureusement pour lui et malheureusement à cause de l'histoire, d'une multitude, il sera une terre d'asile, d'une multitude d'arrivées, d'immigrés venant de tous les pays. Là, on ne parle plus des producteurs. On parle des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes, des chefs opérateurs. Ils vont tous venir aux États-Unis parce qu'ils quitteront, dans le cas de William Dieter, l'Allemagne nazie, la même chose pour Fritz Lang, pour Kurt Bernhardt, pour Max Reinhardt, pour Henri Koster. Curtis quittera la Hongrie qui aura basculé à droite. Litvak quittera la Russie. Mabouliang quittera la Russie. Donc ces gens-là quittent leur pays, sont obligés de fuir, pour les États-Unis. Ils passent parfois en France, mais ils n'y restent pas. Ils n'y restent pas pour deux raisons. D'une part, parce que quand ils quittent l'Allemagne, il va arriver un moment où la France va se rapprocher trop de l'Allemagne pour qu'ils y restent. Mais en même temps, parce que finalement, ils ne trouvent pas en France la possibilité de travailler comme ils le souhaitaient. Fritz Lang, par exemple, ne tournera qu'un film, Lilium, en France. Mais il part en Allemagne. Alors, il part aux États-Unis. La grande chance qu'il va y avoir, c'est que ces gens qui auraient pu se scléroser en arrivant aux États-Unis, être incapables de tourner, vont au contraire réussir des carrières tout aussi remarquables aux États-Unis que dans leur propre pays. Si on prend la carrière de Lang, la carrière allemande de Fritz Lang est admirable, sa carrière américaine est tout aussi admirable. De la même manière, partent, mais sans que ce soit pour des raisons politiques ou autres, et arrivent à différentes périodes, des gens comme Eric von Stroheim, comme Jacques Feder, qui est belge, qui n'est pas français, qui est belge, Murnau, Joseph von Sternberg, Alfred Hitchcock, Maurice Tourneur, Jacques Tourneur. Tous ces gens sont attirés par les États-Unis, pas uniquement par l'argent, bien ça aussi, bon, c'est vrai, mais parce qu'ils pensent que là, ils pourront faire des films. Et il y a un autre mouvement qui est la volonté des Américains de chercher en Europe tout ce qui a du talent. Louis B. Meyer, par exemple, qui était à la tête donc, de la métropole de Meyer, faisait régulièrement des voyages en Europe pour en fait, faire son marché, pour parler. Ceci, il y a une double raison. Il y a une première raison qui est une raison artistique. C'est d'attirer vers les États-Unis des talents. Il y a aussi une autre raison, c'est que ça permet de pénétrer beaucoup mieux le marché de ces pays-là. On va prendre un exemple, la Suède. Louis B. Meyer met sous contrat Victor Sjöström, le plus grand cinéaste suédois, qui fera certains de ses plus beaux films, notamment Le Vent, aux États-Unis. Il met sous contrat Moritz Stiller, l'autre deuxième plus grand cinéaste suédois. Il met sous contrat Lars Hansson, le jeune premier à la mode du cinéma suédois. Et il met sous contrat Greta Garbo. C'est-à-dire qu'il prive d'un coup la cinématographie suédoise de ses deux meilleurs réalisateurs et de ses deux plus grands espoirs. Ça va lui permettre, avec ces films-là, de pénétrer d'autant mieux le marché suédois, puisque ces gens sont déjà connus. Ils bénéficient de leur notoriété, et en fait, ils les renvoient sur place, par les films. Pas eux, mais les films. Puis, c'est le vieux principe de l'espionnage. On engage les gens, même si on ne s'en sert pas, au moins, ils n'agiront pas contre vous. Donc, c'est une volonté hégémonique. On l'a souvent reproché au cinéma américain. C'est en fait de tout vouloir contrôler et d'attirer à elle les talents. Alors, la situation serait tragique si ces talents arrivés aux États-Unis n'avaient fait que de mauvais films. À partir du moment où, au contraire, ils ont pu donner libre cours à ce qu'ils avaient au plus fort d'eux-mêmes d'idées et de génie. La même chose pour les acteurs. Greta Garbo n'aurait pas fait une plus belle carrière en Suède, certainement pas. Alfred Hitchcock a bien compris qu'il avait intérêt à partir aux États-Unis, qu'il avait fait en fait le tour du petit cinéma britannique de la fin des années 30, qu'il fallait qu'il saute le pas et qu'il tourne Rebecca pour David O. Selznick. La même chose pour les autres. Alors, le rôle des producteurs, moi je vais vous citer à ce moment-là une phrase de Richard Brooks, qui n'aimait pas les producteurs. Richard Brooks n'était pas un homme spécialement gentil. Hein. Il a eu des problèmes avec beaucoup d'eux, mais voilà ce qu'il déclarait. C'était de véritables monstres, des pirates, des salauds, jusqu'à la plante des pieds. Mais ils aimaient le cinéma. Ils aimaient faire des films. Ils aimaient voir des films. Et ils protégeaient les hommes qu'ils faisaient travailler. Certains des détraqués qui dominent la profession aujourd'hui n'ont même pas de visage. Et c'est là, en effet, moi, j'ai rencontré une fois Brooks, sur qui j'ai écrit un bouquin, donc je lui ai parlé de Louis B. Meyer. Il m'a dit que c'était un homme méchant. C'était un homme méchant qui aurait trahi son père et sa mère. Mais jamais pour lui. Louis B. Meyer était l'homme le mieux payé des États-Unis, plus que le président de General Motors. Et Brooks continue, jamais pour lui, uniquement pour ce qu'il croyait être le bien du film. Il pouvait se tromper, tout le monde se trompe. Il s'est trompé parfois, il a réussi demain. Mais c'était jamais pour lui, c'était jamais en fait pour embêter les gens, c'était pour que le film soit, dans son esprit, le mieux possible. Et on a des exemples qui sont dans ce domaine-là très intéressants. On peut prendre deux exemples justement avec Louis B. Meyer. En 1932, Irving Thalberg, qui était le bras droit de Meyer et qui va mourir beaucoup trop tôt, décide pour concurrencer Universal, qui a lancé toute une série de films fantastiques, avec le Frankenstein de James Whale, il va y avoir le Dracula de Todd Browning. Donc il s'agit de ne pas laisser l'Universal faire des films fantastiques qui marchent bien, et il s'agit de contrecarrer l'Universal. Donc il demande à Todd Browning de tourner Freaks. Ceux d'entre vous qui ont vu Freaks, c'est un film admirable, c'est un film bouleversant. C'est un film qui n'utilise pas, vous le savez, des personnages... L'habitude du cinéma fantastique, c'est qu'à la fin du film, le type enlève sa postiche, enlève son masque, bon, et il peut rassurer tout le monde. On n'a pas vu de monstre de Frankenstein, on n'a pas vu de vampire, on a vu Bela Lugosi, Boris Karloff, ou qui que ce soit, maquillé. Dans Freaks, ce n'est pas du tout le cas, puisque le film est joué essentiellement par des créatures victimes de malformations de naissance. Ce qui rend le film bouleversant, puisque là, il n'y a pas à se dire, on est rassuré à la fin du film, tout le monde va bien. Non, ils ne vont pas bien du tout. Ils ne sont pas mieux à la fin du film, ils sont dans la réalité comme ils sont dans le film. Bon, donc, Erwin Thalberg insiste pour tourner le film. Louis B. Mayer accepte, mais il y a toujours des délateurs. Et il y a des types qui se manifestent auprès de la côte Est, là où sont les financiers. La côte Ouest, c'est là où sont les tournages. La côte Est, c'est là où sont les financiers. Et ils disent aux financiers de la MGM, c'est vrai, on est en train de tourner n'importe quoi. Il y a des créatures horribles qui circulent dans le studio. On est en train de dilapider les dollars des actionnaires. Bon, donc, en effet, on commence à dire à Louis B. Mayer... En plus, quand les créatures viennent à la cantine, ça pose des problèmes multiples. On est obligé de dresser une cloison pour que les gens ne les voient pas, parce que autant ils tolèrent les nains, Harry Hearst et l'autre, parce que des nains sont des gens en réduction, donc il n'y a aucun problème. Les sorcières moises, Hilton, elles sont très connues, donc on les tolère. Les autres, en revanche, sont en effet, notamment l'homme tronc, difficilement supportables. Donc il faut faire une cloison, il y a une pétition. Bon, donc l'atmosphère n'est pas bonne du tout. Et Louis B. Mayer, au lieu de dire, mais qu'est-ce que ça... Arrêtons le tournage, calmons les financiers de la côte Est, calmons les actionnaires et calmons les gens qui ne peuvent pas manger tranquillement à la cantine. Au lieu de faire ça, il dit au contraire, il donne carte blanche à Erwin Thalberg pour continuer. Et le film est tourné dans des conditions normales. Il coûte d'ailleurs cher, parce que le tournage est compliqué en raison de... Des créatures qui ont beaucoup de problèmes à jouer. Il faut les faire jouer. C'est très... On ne peut pas les faire jouer longtemps, naturellement. Et le film... Bon, il y a un ou deux problèmes de montage, mais si vous voulez, on en parlera plus tard si quelqu'un a une question à poser et que ça l'intéresse. Mais contrairement à ce qu'on a souvent dit, le film n'a pas du tout été mutilé à sa sortie. La mutilation est en fait beaucoup plus faible qu'on ne croit. Ça, on pourra en parler plus tard, éventuellement. Ce qui est sûr, c'est que le film bénéficie, quand il sort, exactement de la même chance que les comédies ou les films noirs de l'époque. Bon, il n'obtient pas le même succès, vu naturellement son sujet, qui est tout de même tragique, mais au départ, il a cette même chance. Aujourd'hui, quelle serait la compagnie de cinéma qui, aux États-Unis, ou en France, ou ailleurs, aurait le courage de faire un film comme ça ? Personne. Il fallait justement le courage d'une compagnie qui savait qu'elle produisait le film, qu'elle le distribuerait et qu'elle l'exploiterait dans ses salles. Elle n'avait pas à chercher des salles pour le film. Les salles, elle les avait. De la même manière, quand King Vidor a subitement l'idée de tourner La Foule en plein New York, dans la ville, avec les techniques que va utiliser quelques décennies plus tard Godard, pour À bout de souffle, personne ne lui dit, mais quelle curieuse idée, attendez, etc. Il y a en fait une grande liberté de ton. Liberté, je vais donner un autre exemple. La Charge Victorieuse. Red Badge of Courage, c'est l'adaptation par John Huston du poème de Stephen Crane sur un déserteur pendant la guerre de sécession. Bon, le film est prévu pour la MGM, on est au début des années 50. Louis B. Mayer n'aime pas du tout le film, n'aime pas du tout le principe. Ce film, il n'aime pas les déserteurs. c'est le moment où on se rapproche de la guerre de Corée, c'est surtout pas le moment. En plus, John Huston a l'idée extrêmement curieuse de faire jouer le rôle du déserteur par Audie Murphy, qui est le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui manifestement va déplaire à l'American Legion, qui va déplaire à tous les anciens combattants. Donc, Louis B. Mayer n'est pas pour le film et le fait savoir. John Huston prend rendez-vous avec lui et lui dit, écoutez, si vraiment ça pose un problème, on va en faire un autre. Je peux me passer de faire le film, on va en faire un autre. À ce moment-là, il se fait engueuler par Louis B. Mayer. Ça, c'est formidable. Par Louis B. Mayer qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est vrai, ça a été rapporté par les deux, d'ailleurs. Louis B. Mayer lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, John Huston? Si vous croyez au film, mais il faut le faire. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que moi je suis contre qu'il faut arrêter. Et au contraire, battez-vous contre moi. On verra lequel de nous deux va l'emporter. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir abandonner ce projet et faire un autre film? Rien du tout. Faites-le. Et d'ailleurs, Huston l'a fait. Parce qu'à ce moment-là, Huston a obtenu l'accord de Don Cherry, qui était le patron de la production de la MGM, et qui ne s'entendait pas avec Mayer, donc c'est devenu un jeu d'échecs, le film étant au milieu, mais il a permis au film d'être fait. Et il y a, à ce moment-là, une liberté dont on n'a en fait aucune idée. Parce qu'on imagine, les producteurs, ils sont tout de même, vous voyez, un grand malentendu. On imagine le producteur américain avec un énorme cigare, en train de cavaler après des starlets dans les couloirs du studio. Alors, il y en avait certainement qui faisaient ça, mais en même temps, c'est en film. Hein. S'ils faisaient les deux, après tout, c'était leur problème. C'était leur problème. Mais ils faisaient les deux. Ce qui était important, c'est qu'ils ne se contentaient pas de fumer des gros cigares et de courir après les starlettes. Ils faisaient de très grands films. Ils faisaient de très grands films parce qu'ils s'établissaient un rapport. C'était pas un rapport de force qu'il y avait entre un producteur et un réalisateur, c'était en fait un rapport de confiance, un rapport d'amitié. Et c'était une véritable esthétique d'estime. Quand on voit Daryl Zanuck, alors Daryl Zanuck c'était un de ceux dont on s'est le plus moqué, de ses cigares, etc. Mais Daryl Zanuck était un ancien scénariste. Il avait écrit de nombreux scénarios sous le pseudonyme de Mark Canfield. Donc, il lisait des scénarios. Aujourd'hui, les producteurs, la plupart ne lisent pas de scénarios. Lui, il lisait les scénarios, lui-même. Et il travaillait dessus. On a des indications de des mémos qu'il a fait, des études qu'il a faites sur les scénarios. C'est absolument éblouissant. Il lit, par exemple, le scénario de La Marthe au type pour Young Mr. Lincoln, que va réaliser John Ford. Il pense qu'il faut y ajouter un personnage. Il a absolument raison. Quand Joseph L. Mankiewicz prépare Chaîne conjugale, Mankiewicz adapte une nouvelle où il y a, vous connaissez brièvement l'histoire, il faut que je vous dise l'histoire de Chaîne conjugale pour que vous compreniez mieux, c'est cinq femmes, au départ, cinq femmes qui partent pour accompagner des enfants pour une après-midi scolaire, et au moment où elles prennent le bateau, elles reçoivent, il y a un facteur qui leur apporte un petit carton, leur disant que leur meilleure amie, qui s'appelle Adiros, est partie avec le mari de l'une d'entre elles. Mais on ne sait pas laquelle. Alors, à l'origine, il y avait cinq femmes. Dans le premier scénario, donc, il y avait Zanuck lit tout ça avec soin, il lit la nouvelle, John Klempner, il lit les premiers états de scénario, il pense que cinq, c'est beaucoup trop, que ça va disperser l'attention du public. Il pense d'ailleurs que l'un des couples, en réalité, c'est un couple qui n'a aucun problème. Donc, ce n'est pas la peine de faire croire que la femme risque d'être trahie, puisqu'elle n'a aucun problème. Donc, il supprime deux des couples et il réduit à trois personnages, à trois couples. Chaîne conjugale, aujourd'hui, le film qu'on connaît, c'est Letters to Three Wives, c'est trois personnages, trois couples. Il est manifeste que dans ce cas-là, le travail de Zanuck a été absolument remarquable. D'ailleurs, Mankiewicz, qui lui aussi n'aimait pas les producteurs, a été un des premiers à le reconnaître. Quand il s'agit de tourner Les Raisins de la Colère, Les Raisins de la Colère, c'est tout de même un sujet à cette époque-là. Ça va être un film de gauche. C'est un sujet brûlant. Donc, Zanuck pousse le projet, décide de produire le film, et le scénariste, Nunnally Johnson, écrit lui-même au bout d'une page, que Zanuck était capable, au bout d'une page et demie, de découvrir qu'il y avait un problème. Une espèce de petit signal lui déclarait qu'il y avait quelque chose de lourd qui ne fonctionnait plus dans le scénario. Donc, Zanuck revoit tout et décide d'envoyer une seconde équipe pour tourner des fonds de scène, des décors. Comme il a peur du conseil d'administration de la Fox, qui est plutôt à droite, il fait croire que c'est une comédie qui s'appelle Highway 66. Donc, il annonce qu'on tourne une comédie Highway 66, donc on va tourner sur les routes comme ça, une comédie. Et donc, ça lui permet de récupérer les plans. Et ensuite, il fait passer au conseil d'administration le projet. Et à ce moment-là, tout le monde a reconnu, notamment John Ford, que la part considérable qu'a eu Zanuck, ça a été de demander qu'il y ait le moins de musique possible. Il y a de temps en temps un petit morceau d'accordéon. Mais au contraire, d'augmenter les bruits. C'est un film où les bruits ont une importance énorme. On entend le bruit des grillons, on entend le bruit de cette espèce de vieille voiture sur les routes de l'Oklahoma. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Zanuck envoie toute une équipe de son aller enregistrer le bruit que fait une voiture sur des routes. On ne se contente pas de dire à l'ingénieur du son local, faites-moi quelques essais. On fait tous les essais possibles. Et on voit, à ce moment-là, que le rôle du producteur est essentiel, puisqu'il va s'occuper de tout. Il s'occupe du scénario, enfin, les grands producteurs, il y en a qui sont moins bons, dans le cas de Zanuck, c'est un des meilleurs. Il s'occupe du scénario, il s'occupe naturellement du choix des acteurs, il s'occupe du choix du réalisateur. Et on voit des films qui, en fait, devraient être réalisés au départ par quelqu'un d'autre. Deux exemples. Young Mr. Lincoln, au départ, il doit être réalisé par Irving Cummings, avec Tyrone Power. Zanuck insiste énormément, change Tyrone Power et décide d'avoir Henry Fonda. Parce qu'il pense qu'Henry Fonda a plus d'aura que Tyrone Power. Tyrone Power avait l'avantage, il était sous contrat à la Fox, dans la compagnie. Bon. Il en parle à Henry Fonda qui dit « Oh là là, le grand émancipateur, j'oserais jamais jouer ce rôle. » Bon, alors Zanuck insiste. On fait faire des essais à Fonda avec un nez plus grand, un menton en pointe. Fonda se trouve finalement très très bien. Donc, on engage Henry Fonda et Tyrone Power va tourner autre chose. Et Zanuck pense que Irving Cummings, même si c'est un cinéaste sympathique, n'a pas sans doute le talent d'autres, et il engage John Ford. C'est l'un des films les plus fordiens de Ford. Même si Ford n'était pas, dès le départ, le réalisateur prévu. De la même manière, qu'elle était verte ma vallée. Il y a peu de films aussi fordiens que celui-là. Au départ, c'est William Wyler qui doit le réaliser. Donc on voit toute une machine qui met en route le film, en fait presque sans le réalisateur. Et quand arrive le réalisateur, il y a une osmose, une alchimie, on parlait tout à l'heure d'alchimie, très difficile à comprendre, mais qui a lieu où tout se passe très bien. On n'a pas du tout cette idée qu'on peut avoir en Europe d'un réalisateur tout puissant, qui écrit le scénario, qui contrôle tout. Moi, j'ai rencontré une fois Jacques Tourneur, qui était un homme très très gentil. Bon, c'était il y a longtemps, il y a 25 ans. Et il n'avait pas été beaucoup interviewé encore à ce moment-là. Et je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, mais quand vous écrivez un scénario, il dit, j'ai jamais écrit un scénario de ma vie. Et j'ai dit, vous avez tout de même collaboré. Mais il dit, c'est pas mon métier, je suis réalisateur, je suis pas scénariste. Bon. Et je lui ai dit, et la photo? Il me dit, mais la photo, attendez. Je ne suis pas là pour mettre l'œil à l'œil tour de la caméra. Ça, c'est le chef opérateur. Moi, ce n'est pas mon métier. Bon, alors, mais le montage, il me dit, j'y suis jamais allé. Qu'est-ce que j'y ferais? Alors, c'est vrai que pour un jeune cinéphile que j'étais à ce moment-là, on sort absolument effondré, parce que toutes les idées qu'on peut avoir sur la politique des auteurs ne tiennent pas du tout. Mais en réalité, il n'y a aucun problème. Parce qu'à partir du moment où le scénariste, vous le connaissez, problème. Vincente Minnelli n'allait jamais au montage, mais c'était la même monteuse, Adrienne Fazan, qu'il a eue pendant des décennies. Elle savait ce qu'il voulait aussi bien que lui. Si vous placez tous ces gens-là dans des relations d'estime, de camaraderie, d'amitié, de professionnalisme, vous n'avez aucun problème. À partir du moment où vous voulez les opposer les uns aux autres, absolument. Mais dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Je vais arrêter 5 minutes, non pas parce que je suis fatigué de vous parler, mais parce que je voudrais vous montrer quelques dessins et quelques photos. Je pense que ça peut illustrer mon propos et ça va couper en tout cas ma litanie. C'est pour vous montrer à quel point on travaillait en amont des films. Et j'avoue, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, non seulement c'est de voir les films, mais de voir en même temps comment on pouvait travailler avant que le film ne se tourne. Là, je vais vous donner un exemple qui est le Roméo et Juliette de Georges Cukor, qui a été tourné en 1936. Ils ont fait pour ce film-là, ils ont demandé à trois décorateurs de très grand talent, de faire des maquettes. Donc trois styles différents. Vous allez voir les trois styles différents. Alors, là c'est toujours moi. Voilà. Alors, regardez le soin avec lequel donc sont préparés ces dessins. Alors, il y a donc ces trois styles différents. Alors, le premier style, c'est celui-là. C'est toujours le même. Ça aussi, bon, c'est un peu piranèse. Vraiment. Ensuite, un style tout à fait différent, plus moderne, plus dépouillé. On regarde ce que ça donne. Oui, très bien. Voilà. D'ailleurs, superbe, hein ? Absolument superbe. Et le troisième style, alors ça, le troisième style, c'est celui d'Oliver Messel. Aucun des groupes de photos, des groupes de dessins n'est signé. Donc on ne sait absolument pas quels sont les auteurs. Le seul qu'on connaît, c'est le dernier, celui-là, puisque c'est celui qui sera choisi finalement, c'est Oliver Messel. Donc on voit, c'est plus, plus décoratif peut-être. Donc c'est lui qui sera finalement le décorateur de Roméo et Juliette, aussi bien pour les décors, pour les costumes. Alors, ce qui est intéressant, là on voit donc Juliette, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à ce moment-là, ils ont dû, sur trois murs du studio, de la MGM, dans un des mettre les trois types de groupes de dessins. Il y a une trentaine de dessins à chaque fois, de chaque groupe. Il y a donc 90 dessins. Ça doit faire donc trois grands murs. Ils ont choisi à ce moment-là quel était le look, le style qu'ils voulaient donner au film. Et tout le monde s'y est mis. Le décorateur, celui qui avait été choisi, donc Oliver Messel, les costumiers, les directeurs artistiques, les ensembliers, le chef opérateur et le réalisateur. Tout le monde a travaillé dans un style. Et ça prouve à quel point le travail en amont est exceptionnel. Parce qu'on a souvent parlé, avec raison, des storyboards d'Hitchcock. C'est vrai, Hitchcock, en plus, on le sait, avait appris à dessiner, il adorait dessiner. Mais c'était une habitude, je ne veux pas dire presque courante, mais il y avait énormément d'habitudes comme ça à Hollywood. Et on aboutissait à des alors lui, c'était surtout les plans qu'il préparait, mais à des essais sur les décors qui sont remarquables. Alors, voilà par exemple ce que donne... Alors là, il faut que je mette une petite pile pour remonter le truc. Regardez ce que donne Roméo et Juliette. Ensuite, donc ça, c'est le vrai décor, sans personnage. Ça vous donne donc quelques types différents de décors. Là, vous avez le film de Clarence Brown, Wife vs. Secretary, le film avec Clark Gable et Jean Harlow. Regardez, c'est absolument superbe, ça c'est l'influence art déco. C'était Cedric Gibbons qui était le patron des décors de la MGM. Vous voyez le soin apporté au film, parce qu'on a l'impression de dire, c'est un film américain, un film hollywoodien, encore un film américain tourné n'importe comment. Ça, on connaît la chanson, on a lu beaucoup de bêtises là-dessus. Regardez, c'est superbe, hein. Alors, là, j'en avais encore, j'en ai quelques autres encore. Oui, ça, c'est For the King All Others, c'est le film de Van Dyck. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Ah, oh, ouais, on voit pas mal. Hein. Pas mal. Et là, alors, c'est superbe, c'est Mrs. Parkington de T. Garnett. Et le soin apporté au décor, hein. C'est quelque chose de fou. Et le moindre objet. Ce n'est pas les images de synthèse qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et c'est tout ça qui a été bradé au cours de la Von Weiss, hein, 70. Hein. Regardez, un simple plan. Donc ça, c'est les décors sans personnages, avant qu'on ne tourne. Et alors, pour terminer, je voulais vous montrer un petit, pour vous montrer à quel point il faisait ça pratiquement sur tous les films. Par exemple, sur The Clock, vous savez, le film de Vincente Minnelli avec Judy Garland et Robert Walker. Voilà, il faisait des petits plans comme ça, sans arrêt, pour avoir une idée, pour fixer l'attention de tout le monde. Alors parfois ça servait, dans le cas par exemple de Ben Hur, des Dix Commandements ou des films comme ça, ça servait pour la promotion des films, pour la publicité. Mais la plupart du temps, ça servait surtout à fixer l'attention de tout le monde, à fixer l'idée, à bien montrer dans quel style on allait tourner le film. Alors on va reprendre un peu ce que je disais sur les rapports entre les producteurs et les réalisateurs. À partir du moment où il y a une confiance, il n'y a aucun problème. J'avais rencontré une fois, je n'ai pas rencontré énormément de cinéastes américains, mais j'en ai rencontré quelques-uns, non. J'ai rencontré Vincente Minnelli. Et Minnelli me disait, non, il a dit tout, il n'y a pas qu'à moi qui l'a dit, il a dit dans toutes ses interviews, il a dit, moi, je n'ai jamais refusé un film de ma vie. Bon, la carrière de Minnelli, c'est une des carrières les plus personnelles qui soit. En dehors de deux films, qui ne sont pas très très intéressants, les autres sont absolument passionnants. Ils représentent en tout cas les lignes de force de la carrière. Ce sont les rapports entre le rêve et la réalité, le rapport entre le créateur en rupture avec son temps. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quand Arthur Freed, l'un des producteurs de Minnelli, décide de tourner The Bandwagon, Tous en scène. Tous en scène, vous savez, l'histoire d'un créateur qui, bon, des problèmes parce qu'il est... Bon, on se dit ça, tiens, c'est Minnelli. Quand Arthur Freed dit, je vais tourner Brigadoon. Brigadoon, le rapport entre le rêve et la réalité, un village qui n'existe que tous les 100 ans. Ça, c'est exactement Minnelli. Le pirate, avec Gene Kelly et Judy Garland. Ça aussi, une espèce de femme fascinée par le mythe du pirate. En réalité, il n'est pas le pirate, le pirate, il est sous le nez. Bon, Minnelli. Yolanda et le voleur. Alors ça, c'est exactement pareil. Et un Américain à Paris, c'est le ballet final. Donc, dans des cas comme ça, le rôle du producteur est essentiel. On continue Minnelli, d'autres producteurs. Pandros Berman décide de produire Madame Bovary. Ils ont l'intelligence de se dire, on va en faire apparaître au début Flaubert, victime donc du procès qu'on lui avait intenté. Qu'est-ce que c'est que Flaubert? Madame Bovary, c'est un auteur en rupture avec son temps, attaqué, etc. Ça, c'est Minnelli. Donc, on va demander à Minnelli de le faire. De la même manière, quand John Houseman, qui était le producteur de Fritz Lang et d'Orson Welles, décide de tourner La vie passionnée de Van Gogh, d'après le roman d'Irving Stone, avec Kirk Douglas. Van Gogh, alors voilà, quelqu'un qui est un créateur en rupture aussi avec son temps. C'est Minnelli. De la même manière, quand il tourne Les Ensorcelés. Les Ensorcelés, un producteur qui veut s'occuper de tout, et il découvre finalement que les producteurs n'est pas réalisateur. Bon. Quand il s'agit de tourner Thé et Sympathie, un jeune homme, est-il homosexuel, peut-être, sans doute, en tout cas, mal accepté par une société de jeunes costauds qui jouent au rugby et qui trouvent que ce type est un peu efféminé, c'est un homme pas bien dans la société qui l'entoure, une société trop dure par rapport à lui, il pourrait être créateur, il le sera, le personnage que joue John Kerr dans Thé et Sympathie, c'est Minnelli. Donc à ce moment-là, on voit... Il n'y a aucun problème. Le choix, il est fait par le producteur. Si le producteur est intelligent, il n'y a pas de problème. Ah bien, mais ce producteur est un imbécile. Et si le réalisateur n'est pas bon, le film n'est pas bon. Bon, enfin, ça, c'est pas les choses les plus intéressantes et ça, on ne s'en occupe pas. Mais quand vous avez des rapports entre un producteur intelligent et un réalisateur de talent, vous avez un grand film. Et ça, c'est la base du cinéma hollywoodien. C'est quelque chose, une fois de plus, qui est arrivé peu de fois ailleurs. Il n'y a pas le rôle du producteur. Moi, les réalisateurs que je connais sont très gênés par rapport au cinéma hollywoodien. Quand l'Oscar est donné pour un film, c'est le producteur qui aux États-Unis vient le chercher. On considère que c'est lui le patron. Que le réalisateur n'est qu'un rouage. Mais ce n'est pas du tout le mépriser. Il n'est pas plus méprisé que n'est méprisé le scénariste. Il est un élément indispensable, peut-être primordial, mais un élément d'un ensemble. C'est comme dans un orchestre, je ne connais rien à la musique, mais dans un orchestre où il y a des solistes de grand talent, mais il y a en même temps un orchestre derrière. Et puis il y a surtout un chef d'orchestre qui dirige tout le monde, aussi bien la totalité de l'orchestre que l'orchestre. Alors, ce que je voulais dire aussi, je ne vais pas vous parler très longtemps, parce qu'ensuite, je voudrais que vous me parliez. Vous avez certainement des questions à me poser ou des remarques à faire. Je voulais vous dire que le cinéma hollywoodien est un cinéma qui a réussi à être extrêmement courageux, ce qu'on oublie. Par rapport aux autres cinématographies, c'est un des cinémas qui a le plus manifesté le courage, par exemple dans les cas de guerre, c'est très frappant, ou dans les cas de persécution. Le cinéma hollywoodien est toujours intervenu avant le département d'État. Le cinéma américain, le cinéma hollywoodien, a commencé à faire des films contre l'Allemagne du Kaiser bien avant 1917, bien avant l'intervention américaine. Et c'est encore plus évident dans la période des années 30. On a un exemple très précis avec la Warner. Le responsable de la Warner à Berlin est frappé à mort par des nazis. Donc, la Warner décide de fermer le bureau de Berlin et de prendre parti, ouvertement, contre le nazisme. La plupart des autres pays l'ont pas fait. À ce moment-là, ils produisent Confessions of a Nazi Spy, le film d'Anatole Litvak, avec George Sanders, qui dénonce le German American Bund. Le German American Bund, c'était les nazis américains, qui étaient très puissants. Quand Goebbels dit que les juifs n'ont jamais servi à rien, ils n'ont jamais rien inventé, immédiatement, Jack Warner fait tourner par William Dieterle, qui est allemand, qui est juif, Dr. Ehrlich Magic Bullet, qui est l'histoire du Dr. Ehrlich qui a trouvé le vaccin 666, qui est le vaccin contre la syphilis, qui a été donc d'une importance médicale considérable. Au moment même où la loi de neutralité interdit au cinéma américain, de prendre parti, c'est par le biais de films historiques que la Warner va vraiment rentrer en guerre, bien avant les États-Unis. Par exemple, L'Aigle des Mers. Vous pensez à L'Aigle des Mers, c'est un film de corsaire avec Errol Flynn, Flora Robson, d'accord. Mais si vous écoutez le discours que prononce à la fin du film la reine Elisabeth Ier quand elle anoblit Errol Flynn, c'est le discours de Churchill qui dit « Méfiez-vous, où que ce soit, ne touchez pas aux mers. Sur les mers, c'est nous qui régnons. Où que ce soit, nous vous retrouverons. Méfiez-vous de l'Angleterre, vous nous trouverez toujours. » C'est exactement le discours de Churchill. Encore plus fort, Jack Warner produit Juarez, toujours réalisé par William Dieterle. Juarez, c'est l'histoire de Benito Juarez, le leader de la révolution mexicaine. Et à ce moment-là, les scénaristes, Jack Warner, les scénaristes, William Dieterle, choisissent de donner à Napoléon III, qui, on le sait, a été à l'origine de la nomination de Maximilien de Habsbourg comme empereur du Mexique, qui a envoyé les troupes françaises sous la direction du général du maréchal Bazaine essayer de supporter le malheureux Maximilien de Habsbourg contre les troupes de Juarez. Donc, ils font de Napoléon III Hitler, un véritable Hitler, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, qui a une volonté hégémonique, qui veut mettre la main sur le monde entier, qui veut attaquer les États-Unis, qui veut détruire la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, etc. Donc, on voit le cinéma américain doubler sans arrêt ce qui est interdit. De la même manière, la Fox fait tourner par Fritz Lang Manhunt, une superbe qui dénonce les nazis en Angleterre. Louis B. Mayer fait tourner par Frank Borzage Mortal Storm, qui est un des plus beaux films qui soit sur la naissance du nazisme et de voir à quel point la naissance du nazisme détruit une famille. On voit une famille qui éclate petit à petit, comme ça, au fur et à mesure que le nazisme se développe. Et ça, c'est très frappant, c'est de voir que ce cinéma, qu'on pourrait penser être un cinéma uniquement dirigé par des souhaits économiques, est en permanence un cinéma réformiste. Il est réformiste pour de multiples raisons. Il y a un côté rooseveltien dans le cinéma hollywoodien, toujours. On attaque les raquettes, on attaque les groupes de pression, etc. Bon. Il y a parfois une grande naïveté, c'est vrai. Mais quand cette naïveté est au service, finalement, qu'elle soit ou non naïveté d'un idéal, pourquoi pas. Il y a une volonté économique, une opportunité. Il ne faut pas non plus se leurrer. Tous les producteurs n'étaient pas uniquement des humanistes. Il fallait que les films fassent de l'argent. Mais le résultat de tout ça, c'est de voir que c'est un cinéma, en fait, extrêmement engagé. Moi, j'ai travaillé sur le cinéma de guerre. Quand on voit à quel point, au contraire, le cinéma français, par exemple, a très très peu abordé les propres guerres qu'on fait, même la guerre de 14, encore moins alors la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Tandis que les Américains n'ont jamais hésité. En pleine guerre de Corée, la Columbia, qui est une des plus importantes majeures compagnies, tourne tant qu'il y aura des hommes, qui ne donnent aucune envie de s'engager dans l'armée. De la même manière, on voit Zanuck produire et faire réaliser par Elia Kazan Le Mur Invisible, qui dénonce un antisémitisme latent. Dans L'héritage de la chair, toujours d'Elia Kazan, c'est au départ John Ford qui devait réaliser, c'est le racisme qu'on dénonce. Racisme que dénonce Richard Brooks dans Le Carnaval des Dieux, dans Graines de Violence, dans La Dernière Chasse, où il assimile le massacre des Indiens au massacre des bisons. Les masques, toujours de Brooks, dénoncent ceux qui veulent empêcher la liberté de la presse. Donc on a affaire à un cinéma qui est en fait un cinéma beaucoup plus engagé qu'on ne pense. Alors c'est vrai que si on prend le cinéma américain, les centaines de films produits par an, ce n'est pas toujours le cas, c'est bien évident. Mais si on prend les films des grands cinéastes, les films des grands studios et des grands producteurs, c'est en tout cas le cas. Et la plupart du temps, beaucoup plus que dans les autres pays. On a même vu un exemple. Quand s'est abattu sur Hollywood la chasse aux sorcières, le maccartisme, c'est une période tragique. Bon. Une période tragique qui a abouti, on le sait, au départ de cinéastes comme Jules Dassin, comme Joseph Losey, comme Silent Field, comme Carl Foreman, de scénaristes comme Ben Marsman. Scénaristes ont été obligés de travailler comme ghostwriters sous des pseudonymes. On a vu des acteurs disparaître, dénoncés par d'autres, se suicider. C'est une période tragique. Mais cette période, elle a, contrairement à ce qui a été dit, et ça si on examine les films, ce qui avait été dit est faux, sur un plan humain, c'est une honte. Mais elle n'a pas pour autant affaibli la virulence démocratique du cinéma américain, qui a continué à ce moment-là à attaquer les groupes de pression. Alors, on sait bien que les majeures compagnies, pour se rassurer, calmer McCarthy, la Commission 10 et quelques autres, ils ont tourné quelques films antisoviétiques qui, la plupart du temps, étaient complètement nuls pour calmer tout le monde. Mais en même temps, parallèlement, ils ont continué à faire des films tout aussi virulent et qui était autant de manières de dénoncer les groupes de pression et à travers cela, certainement, McCarthy et ses sbires. Donc, le cinéma américain, je crois que je vais terminer là-dessus, c'est un cinéma qui est un cinéma qui mérite certainement d'être découvert. Il faut balayer les idées préconçues. C'est un cinéma beaucoup plus ambigu qu'on ne pense. Ambigu par les sujets qu'il aborde, et ambigu, et ça c'était le propos de la petite causerie que je vous ai faite, de la manière dont il se fait. Et ça c'est bien ce dont il faut c'est une question qu'on se pose, moi je pense qu'en sortant, moi je vais continuer à me poser la même question, cette alchimie est incompréhensible, mais c'est celle qui a abouti à ces films, parce qu'il y avait des gens qui appartenaient à des groupes différents, les uns étaient producteurs, les autres étaient réalisateurs, les autres étaient scénaristes, qui en fait ont tout mis en œuvre ensemble, pour que le cinéma américain soit riche de très 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 grands films. Ben, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous avez, mais on pourrait en parler longtemps. C'est difficile d'organiser un plan vu la richesse du domaine. Ce que j'ai pas voulu, en tout cas, c'est vous arriver avec des papiers, vous lire ça, repartir avec des papiers. Moi, je voudrais vous écouter parce que je pense que vous avez ou des remarques ou des questions. Elles sont les unes et les autres les bienvenues.
Patrick Brion, merci beaucoup. Donc tout de suite, nous allons passer aux questions. J'ai une question tout de suite sur notre droite. Monsieur, levez-vous pour poser votre question qu'on vous voit parce qu'on est très, très ébloui. Merci
D'accord.
beaucoup.
Merci pour cette aventure sur le cinéma américain. Oui, je voulais vous poser une question. Là, le dernier mot que vous avez prononcé, c'est alchimie. Donc on a senti au niveau du cinéma américain qu'il y avait une corrélation entre les producteurs, les scénaristes, les chefs opérateurs, toute la famille. Et je voulais vous demander votre impression sur le cinéma français par rapport à ça actuel. Je trouve que, je ne sais pas si c'est un problème où il n'y a pas cette alchimie qui existe entre les producteurs, les réalisateurs et les scénaristes, mais je trouve quand même que les scénarios sur le cinéma français sont un petit peu palichons. Est-ce qu'on manque d'imagination ou il faudrait qu'il y ait plus de corrélation entre les producteurs, etc., ou les producteurs même français ne sont pas les producteurs américains, quoi?
Oui, deux choses. Je pense d'abord que les producteurs américains contemporains ne sont pas les producteurs américains d'hier. Donc on est déjà dans une diminution de talent. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de producteurs français de grands talents. Il y a peut-être plus des brasseurs d'affaires. Je crois que ça tient à deux éléments. Depuis, le rôle du réalisateur a toujours été beaucoup plus fort en France. Le réalisateur est considéré comme un auteur. C'est d'ailleurs très bien. Plus les années ont allé, plus sa puissance en tant qu'auteur s'est développée, au détriment de celle du producteur. Parce qu'un producteur, il faut qu'il ait l'estime de son réalisateur. Si le producteur ne lit pas les scénarios, s'il est là uniquement pour signer les chèques, le réalisateur n'a pas d'estime pour lui. Et on le comprend. Et c'est vrai que les années récentes du cinéma français, avec 68, la création de la SRF, ont fait du réalisateur quelqu'un de beaucoup plus puissant qui naît aux États-Unis. Le droit d'auteur est beaucoup plus fort en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un exemple, c'est ce qu'on appelle le final cut. Alors on dit, ah, c'est terrible, aux États-Unis, le réalisateur, il n'a pas le final cut. Mais le final cut, ça veut dire quoi? John Ford, il n'avait pas besoin de demander le final cut, il l'avait, il suffisait qu'il le problème ne se posait pas. En France, en revanche, les gens se sont battus, ont obtenu, le réalisateur a le final cut, mais à la limite, il devrait l'avoir lui-même, hein. C'est pas une question. Non, je pense qu'on souffre peut-être, en effet, d'un manque de producteurs. Alors, je vous disais, parce que le réalisateur a pris de plus en plus de place, c'est sûr aussi que plus la télévision... Vous savez, la loi fait que toutes les chaînes de télévision doivent produire, enfin, injecter dans la production française une part importante de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'automatiquement, le cinéma est financé par la télévision. Personnellement, moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Hein. Enfin, il faut bien que quelqu'un finance le cinéma, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Auparavant, quand un producteur produisait un film et qui ne marchait pas, c'est embêtant pour lui. Quand il en produisait un second qui ne marchait pas, il risquait de sauter. S'il en produisait un troisième, il sautait. Je crois qu'il y a des producteurs qui ont produit une quinzaine de films qui n'ont pas marché, ils continuent à produire. Hein. Ils trouvent l'argent, parce qu'en fait, le système apporte de l'argent automatiquement, hein, même si le film ne marche pas. Hein. Alors, tant mieux, si c'est compliqué, parce que s'il y a un malentendu, on dit plus il se fait de films, plus il y a de chances qu'on trouve des réalisateurs. Oui, sans doute, peut-être, pas nécessairement. est-ce qu'il faut faire de plus en plus de films et qu'on trouvera de plus en plus de réalisateurs de talent? Peut-être, si on en fait moins, on risque en effet de rater des réalisateurs dont ça aurait été les premiers films et auxquels on n'aurait pas donné leur chance. C'est pas évident. Donc moi, je pense qu'il y a, blague à part, répondre sérieusement à votre question, il y a moins de producteurs, sans doute, qui s'investissent financièrement et artistiquement qu'avant. Oui. Et je pense que le cinéma français en souffre, comme en souffre le cinéma italien, qui n'est tout de même que l'ombre de ce qu'il était dans les années 50 ou dans les années 60, vous bien reconnaître. Il paraît que ce n'est pas uniquement à cause de Berlusconi. J'ai des amis italiens à qui j'ai posé la question, qui ne sont pas de droite, ils m'ont dit que ce n'était pas uniquement à cause de Berlusconi. Et de la même manière aux États-Unis. On rentre dans un cinéma qui est destiné à un public de plus en plus jeune. Il est important, le marketing joue un rôle de plus en plus important. Pour certains films, le budget de publicité est plus élevé que le coût de production du film, ce qui est quelque chose de sidérant. Le budget de publicité est plus élevé que ce qu'a coûté le film. Il faut en même temps pouvoir, si c'est possible, vendre des jouets en plastique dur, des jeux vidéo qui vont avec. Et on aboutit à un cinéma qui est fait d'images de synthèse, qui fait de plus en plus d'images de synthèse, et qui est, moi je trouve, qui est très gênant. Enfin, si vous comparez les derniers films produits par Disney, je parle des dessins animés par exemple, à Bambi ou à Blanche-Neige et les Sept Nains, il y manque la main de l'homme. Hein. Ça se sent très nettement. Comparé à Aladdin et Tarzan, à Bambi, il manque la main de l'homme. Dans Bambi, vous avez cette espèce de... Si vous avez ces courbures, comme dans les tableaux de Franz Marc, vous pouvez toujours courir, dans Tarzan et Aladdin, de trouver les moindres références à la peinture. Et alors, en effet, l'image de synthèse permet de tout faire. On sait très bien aujourd'hui qu'on peut faire un film avec Marilyn Monroe et Humphrey Bogart, qui n'ont jamais joué ensemble, ça n'a rien à voir. On peut parfaitement faire un film avec eux. Qu'est-ce que ça sera, ce film? Quand on a tourné Final Fantasy, alors on dit c'est formidable, le film est entièrement en image de synthèse. On dit c'est merveilleux parce que là, on a l'impression de retrouver la texture d'une joue, la courbure d'une cuisse. Bon, d'accord, il faut peut-être mieux prendre un acteur à ce moment-là. Quel besoin de dépenser des millions de dollars en effets spéciaux à Londres ou aux États-Unis? Il faut mieux prendre une actrice, si c'est pour trouver quelqu'un qui est très joli, il y en a beaucoup. Hein. Plutôt que de... Non, c'est sûr que l'image de synthèse, il y a une grande mutation, mais ça, un jour, on pourra en parler. Le cinéma, vous savez, est un art outragé. Hein. Juste tout de même un élément, mais je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. 80% de tout ce qui a été tourné entre 1895 et 1927 a disparu. 95%. 80%. Imaginez si 80% des livres écrit entre 1895 et 1927 avait disparu. Qu'est-ce qui nous manquerait? Beaucoup de choses. Quand vous dites John Ford a tourné 150 films, 50 ont disparu. Il y a des carrières entières qui ont disparu. Des cinéastes dont on ne connaît qu'un film sur des carrières de 60 films parce qu'il y avait 59 films muets. Donc, je referme la parenthèse. C'est pour vous dire que le cinéma est certainement l'art qui subit le plus de mutations. Et aujourd'hui, il est dans une mutation qui le rapproche pas tous les films, mais certains, de plus en plus, du jeu vidéo. Moi, j'ai rien contre le jeu vidéo. Enfin, c'est un autre... pas le même art, quoi. Je pense pas le même, en tout cas.
Une autre question sur notre gauche. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît, parce qu'on vous voit déjà difficilement. Merci.
Oui, vous avez parlé des immigrés européens qui sont venus à New York, qui ont commencé à rêver de faire du cinéma. Alors, il y a un paradoxe dans ce que vous... Il semble qu'il y a un paradoxe, c'est que ces gens-là, comme vous l'avez dit, voulaient faire de l'argent, étaient incultes, et donc, voulant faire du cinéma, ils y croyaient quand même très fort au cinéma. Or, à cette époque, pour le monde de la culture, le cinéma, c'était pas la culture, finalement. Et là, c'est un paradoxe. Donc, comment est-ce que vous expliquez que ce soit plutôt des gens comme ça qui étaient plus fervents admirateurs du cinéma que des écrivains, finalement, je veux dire.
Moi, je pense qu'aujourd'hui encore, si vous voulez, le cinéma est considéré comme un art forain. Ce qui n'est pas sans charme, mais ce qui
pose beaucoup de problèmes. Et à cause de ça, c'est un art qui a été outragé par les temps. Tous les jours, il disparaît des photos, des scénarios. C'est tragique, les problèmes de conservation des films. Ça, je ne vais pas en parler longtemps parce que je pourrais vous en parler des heures. C'est tragique. La conservation du cinéma, c'est tragique. C'est un art qui va disparaître. Il ne faut pas se raconter de blagues. Il va disparaître. Il va rester quelques films en DVD, les plus connus. La numérisation pour le DVD coûte 600 000 francs. On le fait pour des films qui marcheront très bien. On ne le fera pas pour d'autres. Il y a des pans entiers de l'histoire du cinéma qui ont déjà disparu, 80%. Il y en a d'autres qui vont disparaître. Donc, moi, je pense que le cinéma est toujours considéré comme un art mineur. C'est ce qui a permis certainement à ces gens-là, en effet, d'arriver. Alors, quand je dis qu'ils avaient, bon, ils étaient un culte, moi, je vais dire plutôt peu cultivé qu'un culte. Un culte, c'est dur comme... Ils avaient... je ne sais pas s'ils avaient une soif de culture. Enfin, j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient une soif de culture, une volonté de culture. Ils avaient des ambitions. Et ces ambitions se sont trouvées des ambitions culturelles. Alors, ils ont peut-être fait de la culture sans le savoir, mais ils en ont fait. Hein. Parce que quand vous engagez William Faulkner, quand vous engagez Fitzgerald ou Aldous Huxley, quand vous essayez que vos scénarios soient les meilleurs possibles, vous faites de la culture. Alors, non, ils ne devaient sans doute pas savoir exactement ce qu'était la culture, mais ils en faisaient. Hein. Quand Bernard Nathan, qui était à la tête de Pathé Nathan, qui n'était pas un homme, je pense non plus, extrêmement cultivé, a réussi à faire faire à Raymond Bernard sans doute une des meilleures versions des Misérables, celle avec Harry Bore et Charles Vanel. Quand il fait tourner les Croix de Bois par le même Raymond Bernard, il a une volonté culturelle, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non. Hein. Mais il ne le savait peut-être pas, oui, sans doute. Puisque le cinéma, en effet, était considéré, alors encore plus à cette époque-là que maintenant, comme un art forain. Oui, oui. Donc, c'est un paradoxe parce qu'ils ils ne le savaient pas. Mais ils le faisaient.
Une question. Là, monsieur, levez-vous. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé qui était beaucoup plus qu'intéressant. Et ça m'intéresse de savoir, comme vous savez très bien que Walt Disney, il a fait en 1946 Fantasia,
oui.
Qui était le film de bande dessinée plutôt qu'avec le photo. C'est-à-dire que ce n'était pas le photographe, mais c'est comme les gouaches, une après l'autre, qui viennent d'être un film. Mais il a fait ça après un processus qui était inventé en 1912 par un russe qui est venu à un artiste russe qui est venu à Paris en 1908, Sauvage.
Oui.
Et Sauvage a eu l'idée de faire le premier film coloré abstrait en 1912 à Paris. Et Gaumont était d'accord pour le faire, mais il n'a pas trouvé une seule projecteur qui était technologiquement capable de projeter ce film sur un écran. Bon, la première question, est-ce qu'il y avait Tassini à cette époque-là, en 1912, est-ce qu'il y avait des projecteurs capables, technologiquement parlant, de projeter un film comme ça? Et deuxièmement, on dit l'expert français donne Sauvage crédit d'être l'innovateur pour les questions de couleur dans un film et le mouvement abstrait. Et je veux savoir aussi si, par hasard, aux États-Unis, est-ce qu'il y avait... À la même époque ou avant, est-ce qu'il y avait des gens qui ont innové de l'utilisation de couleurs et d'abstrait mouvement? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que, est-ce que le film que vous avez fait allusion de Audie Murphy, est-ce que c'était The Red Badge of Courage?
Oui.
Oui. Bon, parce que moi, j'ai eu l'impression qu'à ce film-là, les Américains ont pris comme héros Audie Murphy dans ce film. C'est-à-dire que ce n'était pas comme un déserteur, on dit lâche, mais comme c'était un héros. Alors, je vais sur les deux choses, si vous pouvez élucider.
Alors, il y a plusieurs questions. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la technique. Est-ce que... Non, c'est sûr que le cinéma américain a toujours été assez malin, les gens qui étaient à sa tête, pour bénéficier non seulement des talents des réalisateurs, des scénaristes ou des acteurs européens, mais en même temps, des inventeurs. Certainement dans le cas de Disney, ce que vous indiquez, il y a un autre exemple qui est le cinémascope. Le cinémascope a été inventé par le professeur Henri Chrétien, qui était français. Il y a un film qui a été tourné en France, un court-métrage par Claude Autant-Lara, qui s'appelait, je crois, Construire un feu. Personne en France ne s'est intéressé au cinémascope. Il a fallu que ce soit la Fox qui achète le brevet. On dépossède Henri Chrétien et décide à ce moment-là de tourner d'ailleurs tous ses films en cinémascope. Comme ça a toujours été le principe, c'est en effet de bénéficier des inventions des autres. Oui. Alors, en ce qui concerne la charge victorieuse, Red Badge of Courage, bah, il est un héros. Il est un héros, mais enfin, il est tout de même un déserteur, ce brave soldat au début. Il ne supporte pas la bataille. Il est un héros par accident. Si vous voulez, au départ, pour un producteur, c'est ça qui a gêné Louis B. Meyer, c'est de voir tout de même l'idée. On prend un déserteur, même si ce déserteur va être un héros, par accident. On prend un type qui est un déserteur et on le fait jouer par l'acteur américain le plus décoré. Il y avait un grand paradoxe, là. Alors, c'est vrai qu'à la fin, il passe pour un héros. Enfin, bon, c'est un déserteur, tout de même, au départ. Il se tire à toute allure de la bataille. Hein. Il est de l'autre côté. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui ?
Pour la première question-là, Walt Disney, on dit, était inspiré par ce processus parce qu'il a vu... Alors, Museum of Modern Art à New York,
oui.
Il a vu un groupe de ces rhythm colorés qui était exposé à partir de 1942. Mais la question, est-ce qu'il y avait, en Amérique elle-même, est-ce qu'il y avait de technologie de produire un film comme ça en 1912? C'est-à-dire, si par exemple, si le Gaumont allait en Amérique et fait des recherches, peut-être il pouvait produire le film. Parce qu'on sait que, par exemple, en Allemagne, ils ont été beaucoup plus avancés dans le sens de technologiquement parlant pour les projections de films. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vraiment bien savoir.
Ça, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais on sait qu'aux États-Unis, on faisait des recherches dans les années 10, on a fait des recherches dans tous les domaines. On a fait des recherches sur le son, on a fait des recherches sur la couleur. On est arrivé comme ça, le Technicolor bichromique où il n'y avait que deux couleurs. On n'arrêtait pas de faire des recherches, puisque le cinéma, en fait, était en train de naître. Ce n'était pas un art qui était figé. Le cinéma était né en 1895. En 1912, il avait 17 ans, il était très jeune. Hein. Mais je ne sais pas si la technologie permettait de faire ça, je ne sais pas.
Trois dernières questions, madame d'abord. Après, allez-y.
Bonjour, monsieur.
Madame.
Il y a une chose, vous m'avez...
Parlez bien dans le micro.
Il y a une chose, vous m'avez choqué parce que vous avez parlé d'a priori, donc je pense que dans l'amphi, tout le monde a vu les classiques. Hein. Ça, c'est donc personne n'a d'a priori pour aller voir les films américains. Et de deux, je pense aussi qu'on peut rendre un hommage à M. Langlois qui a sauvé quand même beaucoup de films.
Ah, absolument. Ah ben, non, mais a priori, il n'y avait pas de...
Vous avez dit, bon, tout...
L'a priori n'était pas pour... N'était pas pour vous qui êtes là. Hein.
Oui, mais enfin...
Non, mais il y a un a priori. Non, mais soyons justes aussi. Il y a eu tout de même, pendant des décennies, et il continue à y avoir, un certain a priori vis-à-vis du cinéma américain.
Oh, mais monsieur, après la guerre, presque tout le monde, tous les Français sont allés voir les films américains, les classiques. Tout le monde les a... Enfin, je suis d'une génération, je peux dire, ma génération les a tous vus.
En fait, quand... Bah, quand on lit l'écran français qui avait une importance extrême à cette époque-là, on lisait pratiquement généralement le plus grand mal du cinéma américain, sauf quand c'était Citizen Kane ou autre. On éreintait le portrait de Dorian Gray, on éreintait régulièrement les films de John Ford et autres. Il n'y a pas eu dans la presse française des articles extrêmement laudateurs de l'œuvre, par exemple, de Ford. Tardivement. Et alors, attendez, la deuxième remarque.
On vous ramène le micro.
Deuxième remarque, madame, pardon.
C'était sur Henri Langlois.
Sur Langlois, non, mais ça, absolument. Ça, on ne dira jamais assez le bien qu'a fait Langlois. Moi, je lui dois énormément de films que j'ai vus. Langlois n'est pas un homme qui a réalisé des films. Il n'a pas écrit énormément, mais il a joué un rôle de passeur exceptionnel. Exceptionnel. Il y a toute une génération qui lui doit son goût pour le cinéma, que ce soit des gens qui ont été par la suite des critiques, des réalisateurs, des historiens, des exploitants de salles. C'est un rôle considérable que peu de gens dans d'autres pays ont joué. Ça, on lui doit énormément. Ça c'est évident. Hein. Mais ça allait de soi-même. Ce n'est pas exactement le sujet, mais ça allait de soi-même. Et une grande partie des films américains que j'ai pu voir, j'ai pu les voir grâce à Langlois. Aussi bien des classiques que des films moins connus. Et des films muets.
Deux dernières questions. Madame, là.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Je voulais vous poser une question par rapport à certains cinéastes qui sont voulus très indépendants par rapport au système hollywoodien de l'époque, comme par exemple Edgar G. Ulmer. Vous parliez de Jacques Tourneur, mais Jacques Tourneur aussi a été un cinéaste un peu à part du système. Quand il a tourné La Féline, il a pris une actrice française, Simone Simon. Et par exemple, un cinéaste comme John Cassavetes n'est pas du tout entré dans le système hollywoodien de l'époque des années 50-60. Je voulais savoir votre opinion.
Alors là, sont trois quatre figures complètement différentes. Alors dans le cas du premier, Edgar Georges Ulmer, donc il venait, là, j'aurais pu le citer parmi les immigrés, il avait travaillé avec Murnau en Allemagne. Il a été, disons, il s'est pratiquement spécialisé, mais sans doute par la force des choses, dans une production de série B de films tout à fait intéressants. Ce n'est pas parce qu'ils sont de série B qu'ils ne sont pas intéressants. Ce n'est pas parce qu'ils sont à petit budget qu'ils ne sont pas intéressants. Et il a fait notamment une multitude de films pour des minorités. Il a fait des films russes. Il a fait des films en yiddish qui sont tout à fait intéressants. Il a fait un superbe western qui est Le Bandit, qui est ressorti récemment. C'est un cinéaste tout à fait intéressant. Alors, il n'était pas dans le système, mais enfin, comme il a tourné des dizaines de films, et a priori sans énormément de problèmes, il s'est finalement... Il aurait été dans un autre pays, moi je pense qu'il n'aurait pas tourné autant de films. Dans le cas de Jacques Tourneur, moi je pense que Tourneur était en fait tout de même intégré au système. Il tournait Stars in My Crown pour la Metro-Goldwyn-Mayer, il tournait Le Gaucho et la Flibustière des Antilles pour la Fox, il tournait un autre film pour la Columbia. Il allait de firme en firme. Il a aussi... Si vous voulez, quand les gens font des carrières énormes d'une quarantaine de films où on peut suivre leur personnalité, on ne peut pas dire qu'ils soient complètement en dehors du système. Et dans le cas de La Féline, Cat People, qui est un film superbe, en effet, qu'il a tourné avec Simone Simon, il l'a tourné pour la RKO, il a tourné dans de bonnes conditions, il a tourné d'ailleurs d'autres films pour la RKO aussi, sont pas des cinéastes maudits. Alors, dans le cas de John Cassavetes, ça c'est différent. Il est arrivé au moment où les grands studios hollywoodiens commençaient à disparaître, au moment où il y avait l'éclatement des studios. Et en effet, c'est le type même d'une carrière en fait complètement indépendante, remarquablement menée et indépendante. Il aurait eu, je pense, beaucoup plus de difficultés s'il avait eu 20 ans de moins, parce qu'il serait tombé à un moment où les grands studios contrôlaient tout et il n'aurait peut-être pas été en symbiose, pour employer un mot à la mode, parfaite avec les studios. Il était, je pense, trop indépendant pour vraiment travailler facilement dans l'univers des studios. Là, on a trois, quatre figures, en effet, tout à fait différentes. Il y en a un, disons, qui est presque marginal dans le cas de Cassavetes, enfin, marginal par sa volonté d'indépendance. Mais les deux autres, ils ont tourné beaucoup, ils ont... même humains, ils n'étaient pas... Ce n'étaient pas des gens qui avaient des difficultés à tourner. Et vous avez plein d'autres cinéastes, Joseph H. Lewis, Bud Butcher, André de Tos, qui allaient d'un studio à un autre, mais ce n'était pas nécessairement une punition. Il y en avait qui étaient sous contrat dans des grands studios comme Victor Fleming, Clarence Brown, John Ford, Howard Hawks... Hitchcock, mais Hitchcock aussi allait d'une firme à une autre. Le fait d'aller d'une firme à une autre permettait peut-être plus facilement aussi de tourner ce qu'on avait envie de tourner. Hein. C'est pas un cinéaste maudit, hein. Ni Tourneur, ni Edgar Georges Ulmer. Ils sont peut-être pas assez connus, mais pas maudits.
Une dernière question, monsieur. Levez-vous.
Bonjour, monsieur. Vous avez parlé du cinéma américain. Je vais faire une petite parenthèse sur les super films qui ont pu être sortis par des super producteurs. Ne pensez-vous pas, justement, qu'à côté de ces grands films, il y a eu pas mal de navets, comme il y a toujours des navets aujourd'hui? Première question. Parce qu'on produisait beaucoup, mais donc dans la quantité, on a dû en tirer quand même des bons, c'est ce qui est normal. Deuxième question, dans le rôle du cinéma américain aujourd'hui, dans l'importance, Ne pensez-vous pas que le cinéma américain pose aujourd'hui des problèmes philosophiques ou sociaux, politiques, comme le film de Moore qui est sorti concernant M. Bush, par exemple? Troisième question, j'aimerais obtenir votre pensée aussi sur le fait de films comme Spider-Man, qui vient de sortir d'ailleurs, je ne vais pas en faire de la réclame, ces jours-ci, dont le troisième en préparation. Ne pensez-vous pas que pour les enfants, ce n'est pas dangereux et au contraire, ça a un caractère culturel?
Bon, alors, bon, on se souvient, bon, première question, première réponse, on se souvient plus des grands films que des mauvais. Non, c'est vrai qu'il y a eu des milliers, des centaines, des milliers de mauvais films américains. On les oubliera, comme il y a des milliers, des dizaines de milliers de mauvais romans qu'on oublie pour se souvenir des bons. C'est vrai. La production était très importante, c'est une production de masse. Vous savez que les grands studios, à l'époque de l'âge d'or, produisaient un film par semaine. Puisqu'il y avait un nouveau film, ils produisaient 52 films par an. C'est évident qu'il n'y a pas 52 chefs-d'œuvre. Bon. C'est vrai, il y avait des très mauvais films. Ça, je suis bien d'accord. Mais il y en avait de très bons. Donc on se souviendra des très bons. Et on oubliera les mauvais. Le cinéma américain, je ne pense pas qu'il soit plus engagé et plus virulent aujourd'hui qu'avant. Bon, j'ai vu le film de Michael Moore, qui en effet est un film qui n'est pas à la gloire de George Bush. Mais quand je pense à 7 jours en mai, le film de John Frankenheimer, avec Kirk Douglas et Burt Lancaster, qui dénonce le danger que peut présenter un général d'extrême droite prêt à supplanter le président des États-Unis. Je pense que c'est un film qui est tout aussi virulent. Je pense que Tempête à Washington, d'Otto Preminger, est une réflexion tout aussi intelligente que celle de Michael Moore sur les institutions américaines. Moi, je pense qu'il y a toujours eu une tradition de faire des films politiques. Si vous voulez, Henry King a tourné un film sur Wilson qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, contrairement à la France, où il n'y a quasiment jamais eu de film sur le président mettant en rôle sur les présidents français, il y a toujours eu des films où on voyait le président des États-Unis, vrai ou pas vrai, jouer un rôle. Ça pouvait être des films sur Lincoln, des films où on voyait Roosevelt, des films sur Wilson, des films sur l'autre Roosevelt, Théodore. Ça pouvait être en même temps des présidents des États-Unis fictifs. C'est le cas de Point Limite, le film de Sidney Lumet avec Henry Fonda, qui est la version tragique de Docteur Follamour. Tragique, c'est le même sujet. C'est-à-dire une escadrille, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, une escadrille d'avions américains dépasse ce qu'on appelle le point de non-retour, le fail-safe, c'est-à-dire le moment à partir duquel le chef pilote, le commandant de bord, n'obéira même plus aux ordres du président des États-Unis si le président des États-Unis l'appelle en phonie. Et dans le film, alors vous connaissez Dr. Falamour, dans le film de Sidney Lumet, Point Limite, qui est un film un peu plus rare, ce qui se passe, c'est que donc, le président des États-Unis a une conversation avec le premier secrétaire russe. Ils ont été tournés la même année. Et la notoriété de Paul Amour a tué complètement Point Limite, qui est un film très curieux. Donc, ils ont des rapports. Et on ne parvient pas. Le président des États-Unis donne les coordonnées de vol pour faire abattre l'avion américain qui file vers Moscou, qui ne parvient pas à arrêter. Les Russes ne parviennent pas à l'arrêter. Et l'avion bombarde Moscou. Et au même moment, le président des États-Unis donne l'ordre à un des avions du Strategic Air Command de bombarder New York, en prenant comme cible l'Empire State Building, et en disant au président russe, enfin au premier secrétaire russe, on arrête là. On arrête là. C'est un film terrible. On arrête là. L'histoire et le film s'arrête au moment où la bombe tombe sur New York. Elle est tombée quelques minutes avant sur Moscou. Donc, si vous voulez, le président des États-Unis a toujours joué un rôle. On le voit beaucoup, tandis qu'on ne voit pas de film. Il y a peu de films sur De Gaulle, il y a peu de films sur nos présidents de la 3e ou de la 4e République. Ce n'est pas une habitude française de parler de la politique. En ce qui concerne Spider-Man, je n'ai pas vu le second, qui est sorti ce matin. J'ai vu le premier.
sur des adaptations de bandes dessinées. J'ai rien du tout contre la bande dessinée. J'aime bien la bande dessinée. Je sais pas, mais je suis pas, si vous voulez, un sociologue. Enfin, j'ai 4 enfants, mais je sais pas ce que. Donc, je sais pas quelle influence ça peut avoir. Il y a un moment où il a été de bon ton de dénigrer complètement le rôle néfaste. C'était surtout politique. Hein. Le rôle néfaste de la bande dessinée américaine. Bon, aujourd'hui, la plupart des bandes dessinées ont été adaptées avec plus ou moins de succès. Moi, j'avoue, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les films sont bons ou non. Certains ne sont pas bons, je le déplore. Quand ils sont bons, tant mieux qu'ils soient adaptés d'une bande dessinée, d'un roman ou d'autre chose. Sur leur influence sur un public jeune, je ne sais pas. Seule chose que je sais, c'est qu'au moment où est sorti le premier Superman, mais il y a longtemps que celui en noir et blanc, il y a eu plein de problèmes parce que les enfants prenaient l'habitude d'acheter des capes de Superman et se jeter par la fenêtre. Il y a eu plusieurs morts. Ouais, non, c'est pas drôle. Hein. Il y a eu plusieurs morts à cause de ça, donc il a fallu arrêter de vendre des capes ou des choses comme ça. Bon, le reste, je sais pas. Je sais pas si c'est. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est un domaine qui n'est pas le mien.
Patrick Bayon, merci beaucoup.
Merci à vous.